et bienvenue au Transversal, une émission consacrée aux artistes, de la musique, du théâtre, du cirque, de la danse. 40 minutes d'émission enregistrées et diffusées en deux volets, les mardis et mercredis matins à 10h35, en direct sur Radio JM 90.5 donc, et ou en différé sur le site des Transversales, www.les-transversales.fr. Des camps terrasses, des concerts, des projections, des stages, des conférences, c'est à la Maison du Chant que ça se passe, que ça se chante, que ça se danse, mais aussi au Palais Carly, à la Cité de la Musique, à l'église des Chartreux, à l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, cette semaine. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Odile Lecourt. Elle est la directrice et la fondatrice de la Maison du Chant qu'elle crée en 2003, 20 ans déjà. Avec elle, nous fêtons son 20e anniversaire. Aujourd'hui, la Maison du Chant existe plus que jamais, nous verrons pourquoi. Bonjour Odile Lecourt.
Bonjour, merci.
Bienvenue au Transversal.
Merci beaucoup.
C'est toujours un plaisir de vous accueillir ici. Alors un anniversaire festif qui a démarré comme il se doit en musique, en voix et en chant sur les chapeaux des roues. Un week-end d'ouverture les 9, 10 et 11 février. On a pu retrouver là les amis, les complices de toujours et pour n'en citer que quelques-uns. Et puis, si vous voulez, vous compléterez les autres noms, mais d'ores et déjà, Bruno Alary, Françoise Atlan, Anko de Botte, Fouad Didi et d'autres encore.
Oui, c'était une belle, très très beau week-end de lancement, c'est vrai.
Et ça n'est pas fini.
Oh là là, ça n'est pas terminé puisque ça se terminera le 20 décembre.
Ça ne fait que commencer.
Ça ne fait que commencer. Exact. Oh, même pas.
Même pas.
Ça va s'accélérer.
Alors Odile Lecourt, 20 ans pour la Maison du Chant.
Oui.
Ça vous fait quoi?
Beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur. J'ai presque osé dire que ça rajeunit beaucoup parce que j'ai 20 ans. On a 20 ans aujourd'hui, toute l'équipe, et ça, c'est vraiment extraordinaire. On dit que c'est le plus bel âge et toutes les portes sont ouvertes. Donc, en plus, je trouve que ce voyage que je fais depuis 20 ans, puisqu'on réécrit toute l'histoire, je tombe dans les archives, les photos, les souvenirs, c'est extraordinaire. Je m'aperçois que c'était vraiment une très, 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 très belle histoire. C'est une belle histoire qui continue. Et c'est très bien, ça me va très très bien d'avoir 20 ans.
Alors, on va écouter la première musique que vous avez apportée avec vous, premier son.
Oui.
Vous allez nous dire.
Alors, c'est Ablaye Sissoko. Ablaye Sissoko, c'est un musicien, choriste, joueur de kora, un griot qui vient du Sénégal. Alors, j'ai choisi cette musique parce que, bon, l'Afrique est très importante pour moi puisque j'y ai passé toutes mes premières années. La musique africaine a vraiment initié mes oreilles depuis ma naissance. Et ce musicien représente pour moi un mouvement de musique actuelle qui est lié à la fois la musique traditionnelle, les musiques du monde, les musiques complètement contemporaines. C'est un monsieur qui travaille avec beaucoup d'artistes très différents dans le monde entier, dans des fusions, dans des rencontres. Et c'est une musique qui est très importante pour moi pour toutes ces choses-là.
On écoute.
Sobe parala ila corda cono cananina amanque la jonti musobe parala ila corda cono Cananina, a manque la jonte. A manque la jonte. Thank you. un sobe parola y la corda cono cananina a manque la gente a befitarola calero locuta
C'est une très très belle musique.
Absolument.
Et c'est le, ouais. L'instrument, c'est quoi ?
Alors, c'est la kora. Le premier instrument, c'est la kora, la fameuse kora. C'est l'instrument des griots. C'est un instrument qui est beaucoup utilisé en Afrique de l'Ouest. C'est une musique de rassemblement, de paix, d'apaisement, de rencontre et d'échange qui est très, très belle.
Ouais. Ça nous va bien.
Oui, tout à fait.
Comme une rétrospective des chemins empruntés, une retrouvaille avec les artistes qui ont jalonné notre voyage, un rappel des chants et polyphonies abordés, les pages de notre histoire vont se déplier tout au long de l'année 24, un livre qui s'ouvre sur la genèse de la maison du chant et nous emmène sur les chemins de traverse, une partition écrite à plusieurs voix, en résonance avec les clés et les modes des traditions rencontrées, une frise chronologique qui se décline sur les vagues du temps. C'est un extrait de votre édito que je viens de lire, Odile Lecourt, et qui s'ouvre sur la genèse de la maison du chant. Une histoire qui se confond avec la vôtre, Odile Lecourt, si je peux me permettre.
Complètement.
Nous y reviendrons dans tous les cas. Juste encore un mot, une maison du chant dédiée au chant et à la voix. D'abord installée rue d'Izoar, puis au 49 rue Chappe, là où elle est aujourd'hui. Mais avant d'en arriver là, il y a tout un parcours qui vous mènera à la création de la Maison du Chant en 2003.
Absolument.
Alors, je vous propose que l'on fasse ce matin, Odile Lecourt, un bout de chemin avec vous, ensemble.
Volontiers.
Et qu'on l'on aille sur les traces de cette adolescente que vous êtes à ce moment-là. Vous avez 15 ans. Nous sommes dans les années 70 et tout commence par le théâtre. Voilà ce que vous dites. Mais exclu, oui, alors je vais le citer quand même. Exclu par moi-même de l'école, le théâtre est mon refuge. J'y reconstitue mon puzzle personnel. J'ouvre des portes, je découvre l'enfoui. Je vous laisse en parler, Odile Lecourt.
Oh là là. Alors oui, c'est vrai que bon, j'ai été une élève absolument pitoyable, catastrophique
à l'école.
C'était vraiment pas du tout mon truc. Je me suis ennuyée dès l'instant où j'étais assise à une table d'école. J'ai fait les pires choses, renvoyée de partout. Vraiment, c'était catastrophique. Et heureusement, j'ai rencontré le théâtre qui a été pour moi l'ouverture de beaucoup de choses. Je m'y sentais bien, j'étais reconnue, je pouvais m'exprimer. Enfin voilà. Je ne m'ennuyais pas et il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient. Donc, j'ai commencé assez jeune. J'étais plutôt mature, je pense, entre 15 et 20 ans. Et je m'y suis donnée complètement. Et à un moment, j'ai réalisé que, en fait, ce qui me plaisait, c'était pas d'être sur scène, de jouer. Ça me plaisait, bon, mais c'était compliqué parce que j'avais le trac, j'étais pas sûre de moi.
Vous aviez peur, dites-vous. Hein.
J'avais très peur. Oui. Je rentrais dans des états de trac, mais épouvantables avant. Et ça se dépasse toujours sur scène, mais c'était quand même limite. Et puis, je me suis rendu compte que c'était tout cet univers, avec les artistes, avec les lieux, avec tout ce qui se passe autour d'une création, autour de la représentation, cette espèce de magie du spectacle, de la création et du spectacle qui me plaisait. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, un jour, j'aurai un lieu. J'avais 15 ans, je me souviens très très bien, ça a été vraiment un déclic, et puis voilà, j'ai mis ça de côté, parce qu'à 15 ans, on ne relève pas les manches pour aller se former, apprendre tout ce qu'il y a à apprendre, et rentrer dans ce genre de travail.
Votre mère, à ce moment-là, est chanteuse, elle est musicienne,
absolument.
Elle est choriste, et je cite, elle a une belle voix d'alto, Bach, Pergolèse, Handel, ce sont les chants qui vous ont bercé depuis toute petite, pourtant, ce plaisir du chant, vous n'y avez pas droit, il vous est interdit, on ne vous y autorise pas. Tais-toi, tu chantes faux, c'est une injection de votre maman, de votre mère. Premier refrain que vous entendrez toute votre enfance, une mère que vous admirez pour sa voix, pour ses talents de musicienne, de chanteuse, mais vous n'avez pas accès, alors vous vous taisez. Pourtant, le chant, la voix sont là, mais vous n'y êtes pas autorisé, On ne vous y autorise pas. Vous voulez en dire quelques mots, Odile Lecourt ?
Ben, je crois, je me rends compte aujourd'hui qu'hélas, beaucoup, beaucoup trop d'enfants qui vivent ce genre de choses. Des enfants qui ont envie de chanter. Alors, parfois, ils ont un placement qui n'est pas tout à fait juste, comme beaucoup d'enfants. Parfois, c'est aussi la déformation des parents qui n'ont pas envie de laisser leur enfant exprimer quelque chose. J'ai beaucoup réfléchi, beaucoup travaillé. Pourquoi est-ce que cette maman ne m'autorisait pas à chanter ? Probablement parce qu'elle a sacrifié sa carrière de chanteuse professionnelle pour n'être qu'une choriste amateur, pour s'occuper de ses enfants. Donc, c'était difficile probablement pour elle de voir sa fille accéder à ça. Je pense que je ne chantais pas faux.
Mais elle ne voulait pas. Vous étiez dans la compétition à ce moment-là, peut-être.
Probablement. C'était vraiment une éducation un petit peu stricte aussi. Donc voilà, il a fallu que je fasse avec ça. Et c'est vrai que je me suis tue tout le temps. Je ne chantais pas.
C'était terrible.
Envie, mais en fait, la porte s'est fermée et elle ne s'est rouverte que beaucoup plus tard. Et j'étais très heureuse quand elle s'est rouverte. Mais c'est vrai que ça a été un manque et qu'aujourd'hui encore, quand je chante dans un chœur, je chante tout doucement, je ne peux pas chanter seule, je ne supporte pas qu'on m'écoute chanter et j'ai toujours l'impression de chanter faux, c'est terrible, mais voilà, c'est comme ça.
Alors, à ce moment-là, justement, vous allez devoir franchir de nombreuses embûches,
oui.
Passer par des chemins de traverse et là, en particulier, vous découvrez le Siddha Yoga. Alors, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, mais vous allez nous expliquer ce que c'est. C'est quoi précisément?
Alors, le Siddha Yoga, c'est une pratique spirituelle orientale qui est issue du shivaïsme du Cachemire. Donc, certains la revendiquent comme une philosophie, pour moi, c'est une pratique spirituelle. Donc, c'est beaucoup entouré de toute les dieux et déesses du shivaïsme, des pratiques hindouistes, bouddhistes, ça se rapproche aussi beaucoup de ça. Et c'est un canal qui utilise beaucoup le chant. C'est-à-dire que toute la méditation est faite à partir de chants. Toutes les séances de travail, les séances de réflexion commencent par des chants, beaucoup de chants, des mantras. Il y a énormément de mantras différents. Et ces mantras sont destinés à nous amener dans un état de méditation et dans un état de lâcher prise. Donc Et ça marche extrêmement bien. C'est très puissant. Et en même temps, c'est une pratique qui nous ramène tout le temps au quotidien, à la vie d'ici et maintenant, qui n'est pas du tout quelque chose qui nous éloigne des réalités de notre vécu et qui, pour moi, était très intéressante de ce côté-là.
Alors, en fait, vous chantez à ce moment-là, mais vous chantez en cachette de votre mère pendant des années.
Complètement. Je ne lui ai pas dit ça pendant des années et des années et des années. Je lui ai vaguement parlé de cette pratique parce que je parlais peu de ces choses personnelles avec elle et je ne lui disais pas que je chantais autant que je chante, enfin, non, ça jamais. Et quand j'ai commencé à chanter dans un chœur, je ne lui en ai jamais parlé, bien
c'est
évidemment.
Beaucoup plus tard, hein.
C'est beaucoup plus tard.
Beaucoup plus tard. Une rencontre décisive, déterminante aussi, qui vous fera passer le pas, Brigitte Sirla.
Absolument.
Ça a chef été... de chœur, d'ailleurs, ouais. Vous l'écrivez, chef de chœur, à la fois chef de chœur et chef de chœur. Avec le chœur.
Ouais, c'est complètement ça. Oui,
et
tout
on
à fait.
Vous oriente, elle vous oriente vers les altis. Alors, allez-y.
Alors oui, absolument. Quand j'ai dit à Brigitte, avec qui je parlais beaucoup, parce qu'on accompagnait nos enfants à l'école en même temps, que j'avais toujours eu envie de chanter et que je ne pouvais pas chanter, elle m'a dit « ça, je ne peux pas entendre ça, donc viens chanter dans mon cœur ». C'est pour ça que je dis « elle m'a ouvert son cœur
».
Et c'est vrai qu'au début, je suis restée plusieurs mois sans chanter. J'écoutais et ce n'était pas une souffrance de ne pas chanter, j'étais bercée, j'écoutais. Et c'est après, tout doucement, que j'ai commencé à chanter. Et elle m'a orientée vers les altis, cette voix, ce placement de voix qui est le mien, qui est celui dans lequel je suis le plus à l'aise. Et elle a tout de suite vu où je pouvais être, entendu où je pouvais être. Et c'est vrai que ça a été un grand pas pour moi quand j'ai commencé à émettre des sons et à placer ma voix avec mes voisins et voisines. Et ça a été pour moi quelque chose de fondamental.
Ben, il faut dire que vous le racontez très bien dans votre genèse,
ah oui,
la genèse que vous avez écrite, et je vais en lire quelques passages si vous voulez bien.
Oui, bien sûr.
Alors, quelques embûches bien sûr, croche-pieds en tout genre, mais j'y vais, ma copine m'a ouvert son cœur, c'est irrésistible. Cette année-là, ce sont des chants italiens de l'époque Renaissance qui sont travaillés, un peu de polyphonie géorgienne. J'apprends qu'il y a des basses à ma gauche, des ténors à droite, plus loin les soprani. Brigitte me conseille les altiers. Et vous poursuivez, je suis fascinée, c'est beau, c'est poignant. Les oreilles grandes ouvertes, j'écoute pendant des séances et des séances, sans émettre le moindre son. Ça ne me vient pas à l'idée de chanter avec les autres, j'écoute. Et puis, sans que je me rende compte, je me mets à chanter, doucement, très doucement, tout doucement, très bas. Je laisse ma voix filer avec les autres et c'est un grand bonheur. Ces mots, lorsque vous les avez écrits, moi, personnellement, j'étais très émue et je suis encore dans l'émotion en les lisant. Qu'est-ce qui vous a touché le plus? Vous dites, en polyphonie, on chante avec les oreilles. Ça veut dire quoi?
C'est l'écoute. Je pense que c'est quelque chose qui a été aussi extrêmement important pour moi et qui est extrêmement important pour moi dans la vie. C'est-à-dire que c'est l'écoute et c'est d'être dans la capacité d'écouter, d'entendre des choses et de les restituer. Et ça, c'est la clé du chant pour moi. C'est-à-dire que je ne suis pas une créatrice, je n'écris pas de la musique, donc je transmets la musique que j'entends. Mais pour bien l'entendre, il faut l'écouter. Et quand on chante en polyphonie, il faut écouter tout le monde. Parce que si on n'écoute que sa voix, que son pupitre, on ne se place pas du tout dans le... Enfin, c'est comme ça que moi je le vis. Et je trouve que c'est une leçon de vie sur le plan artistique, dans sa place, dans un chœur. Mais c'est une leçon de vie. C'est-à-dire qu'on peut se positionner dans la vie parce qu'on écoute les autres et parce qu'on peut comprendre ce que les autres disent.
D'ailleurs, vous dites, ce sont les polyphonies qui vous touchent le plus. C'est beau, c'est poignant.
Mmh. Oui.
Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de pleurer d'émotion en entendant chanter certaines voix?
Mais non seulement en entendant chanter, je pleure toujours en entendant chanter, mais en chantant. Je me suis vue très souvent dans des concerts chanter et pleurer avec des grosses larmes qui coulent, parce que c'est, selon les voix que j'entends autour de moi, selon ce qui se passe, selon comment moi je suis capable de chanter en pleurant très très facilement. Oui, oui. Et ça, je trouve ça extraordinaire, avoir la capacité
Absolument.
De... Oui, c'est l'autorisation de pleurer, c'est beau.
L'autorisation de chanter.
Et de chanter, absolument, de absolument.
Odile Lecourt, notre émission pour ce matin va bientôt se terminer. Nous arrivons au terme de ce premier volet. On se retrouve demain matin à la même heure, même endroit pour la suite de notre émission.
Volontiers.
Dans tous les cas, on va mettre un son. C'est un son que vous avez choisi pour terminer notre émission. Ensuite, on se retrouve demain. Mmh. Vous allez nous le présenter alors.
Alors, c'est du Rebetiko. C'est une chanson de Nena Venetsanou, qui est une grande, grande chanteuse grecque athénienne qui vit encore, qui chante encore. La musique grecque, le Rebetiko, ça a été aussi quelque chose de fondamental pour moi. Je l'ai découvert bien avant de recommencer à chanter. J'ai découvert en Grèce, dans un voyage, quand on a commencé à pouvoir rechanter le Rebetiko dans les bars, dans les fins des années 70. Et c'est le Rebetiko, c'est le blues grec. Et ça a été pour moi l'ouverture de tous ces mondes du blues, ces voix de femmes que j'aime beaucoup, et le blues portugais, le blues espagnol, le blues est une musique qui me touche énormément, et ça c'est un très très beau morceau de Rebetiko.
Mais grâce à vous d'ailleurs, on avait rencontré, vous nous avez amené...
Caliroy Rauseu.
Caliroy Rauseu, une très belle,
très
belle chanteuse, musicienne,
absolument,
etc.
Absolument, oui.
Merci beaucoup, Odile Lecourt. On termine avec ce son-là et
volontiers.
On se retrouve demain matin.
Volontiers.
Merci.
Τα ματόκλαδα σου λάμπουν βρε, σαν τα λούδια.